RFI, il est minuit à Paris, 23h en temps universel.
Mathis Limano.
Un week-end marqué par de violents combats entre Israël et le Hezbollah à Beyrouth. De nouveau visé ce dimanche par des frappes de l'État hébreu. Après le bombardement meurtrier de samedi dans la capitale libanaise, Beyrouth, d'où le chef de la diplomatie européenne a appelé un cessez-le-feu immédiat. À suivre, dépouillement en cours en Roumanie. Les sondages de sortie des urnes donnent le premier ministre pro-européen en tête de ce premier tour de la présidentielle, suivi de près par une surprise, le candidat pro-russe. Et puis, aux États-Unis, l'équipe de Donald Trump enfin au complet, photo de classe du futur gouvernement américain dans ce journal. À Beyrouth, les cours seront suspendus ce lundi dans les écoles et les universités, annonce du ministère libanais de l'Éducation afin de garantir la sécurité des élèves. La capitale libanaise, d'où Josep Borrell a appelé ce dimanche un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hezbollah. Le Liban, un pays au bord de l'effondrement selon le chef de la diplomatie européenne, qui a aussi martelé la nécessité d'appliquer la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, résolution qui stipule que seule l'armée libanaise et les casques bleus doivent être déployés à la frontière entre Israël et le Liban. A signaler ce dimanche de violentes frappes israéliennes sur Beyrouth après celles particulièrement meurtrières de samedi sur le quartier de Basta. Dernier bilan, 29 morts, les recherches de survivants se poursuivent. Ce soir, l'armée israélienne appelle à l'évacuation de 12 immeubles de la banlieue sud de la capitale libanaise avant un nouveau raid aérien. Tandis qu'une réunion sécuritaire se tient à Tel Aviv, elle pourrait décider de la suite de cette guerre au Liban. Michel Paul à Jérusalem.
Plus de 300 tirs depuis le Liban, des roquettes et aussi des drones, quelques 500 alertes en Israël qui ont envoyé 1 million d'Israéliens dans des abris, dans le nord du pays, en Galilée, mais aussi dans le centre, dans les banlieues de Tel Aviv, et même dans le secteur de Toul Karem en Cisjordanie, où une roquette s'est abattue en milieu d'après-midi. En tout, une dizaine de blessés, mais surtout des dégâts matériels importants. C'est la journée la plus intense depuis le 7 octobre 2023, relèvent les médias ici ce soir, et cela fait suite aux frappes israéliennes, notamment à Beyrouth, tout au long de ce week-end, également d'une intensité sans précédent. Ce soir, une réunion sécuritaire autour du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il s'agit de finaliser un arrangement politique, mais en attendant, Israël entend bien poursuivre et même intensifier ses attaques pour marquer des points sur le terrain. Ce soir, une source militaire israélienne le souligne, en cas d'échec des efforts de médiation, Israël pourrait s'en prendre aux infrastructures libanaises. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et à Gaza, le bilan des victimes ne cesse de grimper. 44 211 personnes sont mortes dans l'enclave depuis le début de la guerre. Dernier chiffre du ministère de la Santé du Hamas qui ajoute que plus de 100 000 Palestiniens ont été blessés depuis le début de la guerre. En Roumanie, le Premier ministre en tête du premier tour de la présidentielle, le pro-européen Marcel Ciolacu, est crédité de 25% selon les sondages de sortie des urnes. Légère avance sur la surprise de ce scrutin. Le pro-russe Calin Georgescu, le dépouillement est toujours en cours. Il récolte pour le moment 22% des voix. L'élection présidentielle en Roumanie qui mobilise à l'étranger notamment. Exemple, ce dimanche en France où des électeurs roumains ont voté à l'ambassade de Paris. Christina Teaca de la rédaction roumaine de RFI les a rencontrés.
J'aimerais bien que le prochain président se concentre davantage sur tout ce qui est système de santé et également les écoles et le système d'éducation, moi-même étant dans le ministère de l'Éducation en France.
Je m'appelle Tudor et je suis un étudiant en licence de sciences politiques à l'international. Pour moi, le futur président doit être un président qui sait écouter son peuple, qui arrive à mettre en avant la Roumanie sur la scène internationale, à rendre la Roumanie un acteur important géopolitique dans le sud-est de l'Europe.
L'élection en Roumanie scrutée de près chez le voisin ukrainien. En effet, si le candidat pro-russe se qualifie au second tour, l'aide militaire de Bucarest à Kiev pourrait cesser. L'Ukraine qui continue de demander à ses alliés de nouveaux systèmes de défense antiaérienne après le tir inédit d'un missile balistique russe jeudi sur la ville de Dnipro. Les autorités ukrainiennes ont par ailleurs présenté ce dimanche des débris de ce fameux missile baptisé Oreshnik devant un parterre de journalistes. Du côté de la diplomatie, ça s'active pour trouver une issue au conflit. Rencontre ce dimanche entre le futur conseiller sécurité de la Maison-Blanche, Mike Waltz. Il s'est entretenu avec l'administration Biden pour parvenir à un arrangement à terme entre l'Ukraine et la Russie à 2 mois de l'investiture de Donald Trump. Le cabinet du président américain élu, désormais au grand complet. Le dernier poste manquant, celui de l'agriculture, a été attribué samedi à l'avocate Brooke Rollins. Elle avait déjà travaillé avec Donald Trump lors de son premier mandat en tant que directrice du Conseil de politique intérieure de la Maison-Blanche. Un choix caractéristique de ce gouvernement, composé de proches de Donald Trump les plus fidèles. Un cabinet taillé sur mesure pour appliquer son programme ultra-conservateur à Rimnipold.
Donald Trump, version 2.0, cette fois le président élu n'a pas l'intention de répéter les erreurs de son premier mandat. En 2016, le gouvernement comptait encore des républicains modérés, parfois prêts à lui tenir tête, mais ça, c'est du passé. Pour son grand retour, Donald Trump s'entoure exclusivement de fidèles, quitte à mettre de côté les compétences requises pour certains postes. Son cabinet, une équipe 100% alignée sur sa vision, et tant pis si certains choix font grincer des dents. Prenez Pete Hegseth, par exemple, animateur vedette de Fox News, il prend directement les rênes du Pentagone. Ou encore Robert F. Kennedy Jr., connu pour ses positions anti-vaccins, à la tête du ministère de la Santé. Et pour l'éducation, une ancienne dirigeante du catch professionnel. Le message est clair, tout ce petit monde devra suivre à la lettre le programme de Donald Trump, au menu expulser massivement les migrants sans papier, adopter une ligne dure face à la Chine et refondre l'administration fédérale avec en prime le soutien de l'homme le plus riche du monde, Elon Musk.
Et on reste aux États-Unis où la liste des entreprises chinoises interdites d'exporter dans le pays continue de s'allonger. En fin de semaine, Washington en a rajouté 30 nouvelles. Nathanaël Vitran, des entreprises soupçonnées de recourir au travail forcé de la minorité ouïghour.
Cet ajout porte à plus de 100 le nombre d'entreprises chinoises répertoriées sur la liste noire du département de la sécurité intérieure depuis 2021. Tous les secteurs sont concernés, de l'agriculture à la production minière, en passant par toute une gamme de produits fabriqués à partir de matières premières extraites dans la région du Xinjiang, à l'ouest de la Chine, comme l'aluminium, le cuivre, l'or ou encore le nickel. Pékin est accusé d'y mener une politique de répression et d'internement massif de la minorité musulmane ouïghour et d'autres minorités religieuses. La présence de camps de travail gérés par le Parti communiste chinois est documentée par plusieurs enquêtes internationales, dont les plus critiques vont jusqu'à dénoncer un génocide. Des accusations et des enquêtes balayées par la Chine qui prétend qu'il s'agit simplement de centres de formation. Seul moyen pour les entreprises chinoises d'échapper à cette interdiction d'exporter aux États-Unis, prouver qu'elles n'ont eu recours au travail forcé à aucune étape de leur chaîne de production.
À Bakou, la COP29 s'est terminé sur un accord arraché dans les toutes prolongations. Un accord qui ne satisfait pas grand monde, à commencer par les pays du Sud. Ils déplorent un financement très insuffisant de la part des pays riches pour les aider à faire face à l'urgence climatique. Finalement, les seuls à être satisfaits sont Washington. Joe Biden a salué un pas important et Bruxelles. Wopke Hoekstra, le commissaire européen à l'action climatique, préfère voir le verre à moitié plein.
Ce n'est pas exagéré de dire que les négociations ont été difficiles. Et c'est pour cela que je pense que l'existence même de cet accord est une très bonne nouvelle. La situation géopolitique actuelle est particulièrement compliquée et c'était l'occasion de faire preuve d'unité. Si on regarde le contenu à présent, vraiment, je pense que tripler la somme que nous mettons sur la table est une avancée significative. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, nous espérions un accord plus ambitieux en ce qui concerne les moyens d'atténuer les changements climatiques en cours. Mais vous n'êtes pas sans savoir que certains ici espéraient revenir sur certaines des avancées obtenues l'an dernier à la COP28. Et nous avons réussi à l'empêcher.
Toujours à l'écoute de RFI, il est minuit 9 à Paris. Dépôt de plaintes dans les hôpitaux pour plus de discrétion, formation des policiers. Voilà les mesures qui devraient être annoncées ce lundi par le Premier ministre Michel Barnier, et ce, à l'occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, des mesures attendues en plein procès des viols de Mazan. Le Premier ministre français qui a un rendez-vous sous haute tension ce lundi à Matignon. Dans la matinée, Michel Barnier reçoit Marine Le Pen, c'est leur premier rendez-vous. Il sera question du budget budget 2025. La présidente du Rassemblement national à l'Assemblée qui menace toujours de voter la motion de censure en cas d'utilisation de l'article 49.3 par le gouvernement, c'est-à-dire une adoption du budget sans vote. Ce journal touche à sa fin. Un mot de sport avant les matchs de ce dimanche soir. En France, Nice intègre le top 5 de Ligue 1 après sa victoire sur Strasbourg 2-1. En Espagne, derby basque entre Bilbao et la Real Sociedad. Victoire sur la plus petite démarche pour Bilbao 1-0.